Et par actualité.
Bonjour tout le monde, Clotilde Seille, en votre compagnie pour la prochaine demi-heure pour vous présenter les paractualités ici sur l'île de Montréal, au Québec, mais également dans, au Canada, partout, d'est en ouest, avec bien sûr aujourd'hui aussi des entrevues. Je vais m'entretenir avec Christelle Labrec-Dupuis, agente de concertation et de projet au regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, autrement dit le RUTA, et puis l'organisme du jour. Aujourd'hui, nous vous présentons le théâtre aphasique et nous vous présentons également Isabelle Côté, qui en est la directrice générale et artistique de ce théâtre-là, qui va venir nous parler un peu des pièces à venir, bien évidemment. Également, on parlera d'une tour pour les personnes aveugles à Edmonton et puis de Montréal, qui réaffirme son engagement envers les personnes âgées. Alors, la Ville de Montréal s'étant engagée envers les aînés et les personnes ayant des limitations fonctionnelles à mettre en place des programmes visant une bonification des services leur étant destinés, annonce aujourd'hui la mise en chantier de 28 projets municipaux et le financement de 8 autres projets répondant à cet engagement. L'accessibilité universelle et la bonification des services offerts à nos aînés et aux personnes ayant des limitations fonctionnelles constituent une priorité pour l'administration municipale. Les projets annoncés aujourd'hui sont des actions concrètes que nous posons en ce sens. La Ville de Montréal réaffirme son engagement et continuera de déployer les efforts nécessaires afin de rendre Montréal une ville universellement accessible ainsi qu'un endroit adapté aux aînés. S'est exprimé le maire de Montréal, M. Denis Coderre. Alors, afin de favoriser l'accessibilité universelle dans l'aménagement du territoire, l'accès aux édifices, aux services municipaux et aux communications, la Ville de Montréal accorde un soutien financier non récurrent totalisant 76 000 $ à 3 organismes pour la réalisation de 8 projets. Les organismes retenus, Altergo, le regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain et la table de concertation des aînés de l'île de Montréal ont répondu à un appel de projet fait plus tôt cette année par la ville aux organismes membres du comité des partenaires en accessibilité universelle. Ces projets sont en lien avec le plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle et répondent à la politique municipale d'accessibilité universelle de la ville de Montréal. C'est la deuxième édition de la campagne Mondou-Mondon. Les calendriers au profit de la Fondation Mira sont de retour. Mondou est fier d'annoncer le lancement de la deuxième édition de sa campagne Mondou-Mondon. Une collecte de dons au profit de la Fondation Mira qui aura lieu du 19 septembre au 24 octobre prochain dans les 61 magasins Mondou du Québec, ainsi que sur la boutique en ligne mondou.com. L'année dernière, la campagne avait permis de remettre plus de 223 000 $ à la Fondation, incluant un don de 100 000 $ de l'entreprise. Mondou est fier de s'associer à Mira depuis plus de 20 ans déjà. C'est notre passion pour les animaux et pour cette cause qui nous motive année après année à appuyer cette belle fondation, a déclaré Martin Deschênes, le directeur général de Mondou. Et puis au sujet de la Fondation Mira, rappelons quand même que cet organisme de bienfaisance a été fondé en 1981. Mira qui poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur intégration sociale en leur fournissant gratuitement des chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins. Depuis sa création, pas moins de 3000 chiens ont ainsi été donnés. Il y a des gens qui s'expriment, et c'est le cas notamment en ce moment du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, le RUTA. Des gens qui ont publié deux lettres qu'ils souhaitent aujourd'hui commenter sur nos ondes. Alors, je vais m'entretenir avec Christelle Labrec-Dupuis, qui est agente de concertation et de projet au regroupement. Bonjour, Christelle.
Oui, bonjour.
Alors, d'abord, parlez-nous de ces deux lettres. En gros, assez rapidement, qu'est-ce qu'elles comportaient? Qu'est-ce que vous réclamez?
Oui, d'abord, la première lettre, c'est sur les autobus 747.
Oui.
Donc ça, c'est l'autobus qui fait le centre-ville jusqu'à l'aéroport de Montréal. La STM, en fait, a dû redéployer certains de ses autobus pour avoir plus de transports en commun où il y a des chantiers à Montréal.
D'accord.
Et elle a enlevé des autobus de cette ligne-là. Et la solution qu'elle a trouvée pour pallier à ça, c'est d'avoir des autobus, des autocars, en fait, qu'elle a loués, là, des gros coachs là, qui
Ouais.
font généralement du transport plus interurbain. Donc, le problème avec ces autobus-là, c'est qu'ils ne sont pas accessibles. Il y a 5 marches à monter pour aller dans le transport. Donc, non seulement les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas monter, mais n'importe qui aurait besoin de la rampe d'accès qui est
Mais oui.
habituellement dans les autobus ne peut pas les utiliser.
Ah bon.
Donc, il y a beaucoup moins de trajets qui sont accessibles vers l'aéroport pour ces personnes-là en ce moment.
Est-ce que ce sont des lettres que vous allez diffuser dans les journaux aussi? Non?
On les a envoyés aux journaux, mais si je me trompe pas, j'ai pas vu que
D'accord.
ça a été diffusé.
Bon, alors, quelle a été la réponse en ce qui concerne cette première lettre? Quelle a été la réponse de la STM?
Ben, en fait, on nous a expliqué justement que il y avait un choix à faire parce que il manquait d'autobus en ce moment. Il fallait trouver une solution et celle qui a été retenue, ben, ça a été les autobus qui sont pas accessibles. Après ça, ils se sont demandé, bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap? Et les solutions qui ont été trouvées là sont pas vraiment à la hauteur là.
Mais
Dans le
ouais,
fond,
c'est dommage parce que voyez-vous, je viens juste de lire une nouvelle juste avant qu'on se parle sur la ville de Montréal qui va vraiment investir pour rendre encore des lieux de plus en plus accessibles, qui va mettre pas mal d'argent sur la table. Alors je me dis, il y a quand même une volonté à Montréal de faire quelque chose de bien. Comment ça se fait que ça ne suit pas comme ça à la STM? Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions? Je ne sais pas.
on nous a dit, en fait. On nous a dit qu'avec l'appel d'offres, il y a une seule compagnie qui a soumissionné et c'était pour que la STM loue des autocars.
Bon.
Donc, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution pour ça en ce moment.
Bon, ça veut dire que vous allez baisser les bras ou vous allez continuer à essayer de faire quelque chose au RUTA?
Ben c'est ça, on est en réflexion là. La semaine dernière, on a reçu toutes les informations par rapport à ça, la réponse. On a envoyé, nous, notre lettre de mécontentement. C'est sûr que là, c'est déjà mis en place. C'est pour une durée temporaire jusqu'à décembre. Donc, je peux pas le dire pour l'instant, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça prochainement.
Et puis, il y a une deuxième lettre que vous avez également envoyée à la STM, mais cette fois-ci qui concerne le choix du lieu des célébrations du 50e anniversaire du métro. Parlez-nous de ça un petit peu.
Oui, en fait, c'est ça. La semaine dernière, il y a eu un communiqué de la STM qui disait, nous allons fêter les 50 ans du métro et ça va se passer à la mi-octobre à la station Place des Arts. Et là, ils invitaient tous les Montréalais, tout le monde qui prend le transport en commun.
Oui.
Sauf que la station Place des Arts, ce n'est pas une des stations accessibles. Donc, pour
Ah non.
nous, ce n'est pas vrai que c'est une invitation à tous les Montréalais parce que les Montréalais en situation de handicap qui ne peuvent pas rentrer dans ce métro-là pourront pas partir aux festivités.
Ça veut dire
Donc,
que... Ah oui, ça veut dire que par exemple, même si vous voulez aller voir, parce que est-ce que vous pouvez aller voir un show à la Place des Arts?
La Place des Arts comme telle,
Elle
je
est
crois que
accessible.
oui, c'est ça. On n'est pas obligé de passer par le métro, mais là,
C'est
les
ça.
festivités vont être dans le métro.
Vont être dans le métro et entre la Place des Arts et le métro, si je ne m'abuse, effectivement, il y a des escaliers.
Oui, exactement.
Exactement. Et là, il n'y a pas d'ascenseur. Et là encore, avez-vous eu une réponse?
Oui, justement, elle est rentrée aujourd'hui, cette réponse
Ah
toute
bon?
fraîche. En fait, on nous explique essentiellement qu'au début, j'avais regardé pour la station Berri-UQAM,
Oui.
sauf que, bon, selon certains critères, elle ne pouvait pas être retenue. Et donc, ils se sont tournés vers la station Place des Arts. Mais
Ah.
nous, ce qu'on dit dans notre lettre, c'est qu'il y a quand même, à Montréal, ben, dans tout le réseau de métro, il y a 10 stations accessibles.
Oui.
On voit vraiment pas pourquoi il n'y en a pas au moins une de celles-là qui aurait pu faire l'affaire
Bien
pour les
sûr.
festivités.
Bien sûr, mais je ne sais pas, ben, peut-être
Donc.
qu'il devait trouver que c'était peut-être pas assez glamour ou je ne sais pas quoi. Il devait se dire à la Place des Arts. Non,
Je
mais
sais pas.
bon, ben, écoutez, là encore, vous pensez qu'il pourrait revenir en arrière ou pas, non?
Ben, pour celles-là, nous, on croit que oui.
Ah,
C'est
OK.
une problématique pour nous qui est beaucoup moins difficile à régler. Comme je disais, il y a plusieurs stations qui sont accessibles. Pour nous, il n'y a aucune raison qui est valable pour qu'ils ne choisissent pas une de ces stations-là. Sur ce sujet-là, c'est ça, on a reçu la réponse ce matin, donc on sait qu'on
Bon.
va continuer
Le combat.
à faire des actions, exactement, mais on n'a
D'accord.
pas encore décidé qu'est-ce que ce serait.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être intervenue sur nos ondes. Christelle Labrecque-Dupuis, je rappelle que vous êtes agente de concertation et de projet au RUTA, le regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Alors en région maintenant, le député fédéral de la circonscription de Gatineau, Stephen McKinnon, est allé visiter mardi matin l'organisme Heureux Source Intégration qui emploie une centaine de personnes handicapées vivant avec une déficience ou des problèmes mentaux. Le député d'ailleurs qu'on voit sur une photo qui s'est amusé à tester un des produits de Heureux Source Intégration en compagnie de travailleurs de l'organisme. Fêtant ses 31 ans d'existence, l'organisme à but non lucratif Heureux Source Intégration est une entreprise d'économie locale qui promeut la création d'emplois pour les personnes handicapées. Elle emploie une centaine de personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle, des limitations physiques ou encore des troubles de santé mentale pour travailler dans des activités d'assemblage, d'emballage, d'étiquetage, de fabrication de panneaux de carton, de recyclage, etc. Stephen McKinnon semblait très content d'être là, lui qui est personnellement sensibilisé à la cause des personnes handicapées. C'est une cause à laquelle je me suis beaucoup dédié dans ma vie, a-t-il dit. Ma famille et moi avons composé avec mon frère qui était très handicapé. On a vu ce que c'est, la fierté d'aller à l'école, de participer, d'avoir une pleine participation et intégration dans la société. De par ses services et ses deux centres de liquidation, la source des aubaines, Ressources Intégration se permet d'être rentable financièrement. Cela permet à leurs employés qui travaillent 40 heures par semaine de s'intégrer dans le marché du travail et d'obtenir une autonomie financière. Très rapidement, à Chambly, les usagers du réseau de la santé et des services sociaux peuvent contribuer à améliorer les soins lorsqu'ils portent plainte. C'est du moins le message que lance le comité des usagers du réseau local de services Haut-Richelieu, Rouville, à l'occasion de la Semaine des droits des usagers. Cette année, l'événement se déroule du 22 au 30 septembre sur le thème du droit de porter plainte. Les usagers ont souvent peur des représailles et ils hésitent à porter plainte lorsqu'ils sont satisfait. Mais l'insatisfaction, c'est une occasion d'améliorer les services, de souligner Jacques Gravel. Je vous donne un numéro de téléphone parce qu'il va y avoir plusieurs activités, tables rondes, conférences, etc. sur ce thème. Le numéro, je vous le donne très doucement, dans le 450 358 25 78. 358 25 78 dans le 450, le poste 8958. Et je vous rappelle que toutes ces informations seront de toute façon sur le site internet de Canal M. Elle est directrice générale et artistique du théâtre aphasique et je vais maintenant m'entretenir avec elle. Il s'agit d'Isabelle Côté. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors Isabelle, présentez-nous un petit peu cette troupe.
Ah, une troupe un peu particulière qui existe depuis maintenant 20 ans.
Oui.
Donc, c'est un projet d'une orthophoniste de l'hôpital Villa Medica qui a démarré d'abord des ateliers d'art dramatique avec des patients aphasiques, donc des gens qui avaient subi un accident vasculaire cérébral, qui ont perdu l'usage de la parole à la suite de ce dommage cérébral-là. Et puis, donc, ils font de l'orthophonie en réadaptation et avec elle, ils ont entrepris d'abord des ateliers d'art dramatique. Et puis, le projet s'est développé et ils ont fini par créer un spectacle,
wow.
Un premier spectacle, donc il y a plus de 20 ans, qui s'appelait Le silence qui parle. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Hein.
Oui.
On a créé un
Mais
organisme
oui.
à la suite de ça et maintenant, on fait des spectacles régulièrement avec cette troupe.
OK. Alors, est-ce que c'est dans le même théâtre que c'est présenté ou est-ce que vous vous déplacez?
Ah non, on se déplace, évidemment. Ah. On y va selon les demandes, d'abord. On va jouer dans des lieux où les gens nous demandent de présenter le spectacle. Oui. Et parfois, ben, c'est nous qui organisons des représentations selon l'époque. On va louer une salle ou on va jouer dans le cadre d'un festival ou de différents événements. Là.
Alors, justement, c'est dans le cadre d'un festival que vous allez vous produire mardi prochain,
oui,
le 27.
Déjà.
Oui, le festival de théâtre amateur Art Neuf.
Voilà.
Alors, ça se passe où? Et c'est au Parc La Fontaine, je pense. Hein?
Oui, c'est ça. Ça se passe à Montréal. Donc, un festival qui se déroule du 26 septembre au 30 septembre. Je pense que ça se termine peut-être... Non, c'est ça, le 30 septembre. Mm-hmm. 5 troupes qui présentent des spectacles à tous les soirs. Et nous serons, nous, le 27, mardi le 27. Et c'est à la salle c'est la salle Paul Buissonneau du centre Calixa-la-Vallée.
Oui, 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 absolument.
Donc, au cœur du Parc La Fontaine,
oui,
à Montréal.
Oui, oui, que les Montréalais connaissent bien.
Oui.
Et qu'est-ce que vous présentez? À un moment donné, il y a aussi Le Dernier Mot. Ça, c'est une pièce que vous aviez déjà présentée, je pense. Hein?
En fait, c'est un projet qui se développe. C'est un projet qui se développe, qui grossit. On a demandé, nous, à 6 auteurs dramatiques québécois d'écrire pour nous, d'écrire une scène d'une vingtaine de minutes pour le théâtre aphasique, spécifiquement pour la troupe. Alors, plusieurs auteurs ont accepté. On s'est retrouvés comme ça avec 6 magnifiques scènes d'une vingtaine de minutes.
Wow.
Et tous avaient le même thème, donc le dernier mot. Alors, on se retrouve avec des scènes tout à fait différentes, des atmosphères différentes, des styles d'écriture différents, mais avec toujours ce thème-là, le dernier mot.
Qui sont les auteurs qui vous ont dit oui? Peut-être que vous les avez...
On a des beaux auteurs. On a François Archambault, entre
oui.
autres, qui est assez prolifique sur la scène théâtrale. On a Chantal Cadieux, qui
oui.
est l'auteur dramatique, entre autres, des Mémoires vives.
Oui.
On a Larry Tremblay.
Oh, fantastique.
Rien de moins.
Rien de moins.
Voilà.
Excusez-moi du peu.
Oui.
Bravo,
on
Isabelle.
On a aussi des jeunes auteurs quand même qui roulent bien leur bosse. Là.
Oui.
Martin Bellemare, Jean-Philippe Lehoux, Olivier
oui.
Sylvestre, qui sont des auteurs sortis de l'École nationale de théâtre. Et donc, on a 6 beaux tableaux comme ça, mais qu'on ne joue pas nécessairement tout le monde en même temps. Donc, ça peut devenir un spectacle d'une vingtaine de minutes ou un spectacle de 2h30.
C'est très impressionnant.
Oui, 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 tout dépendant combien de scènes on décide de présenter.
D'accord. Dites-moi, quels sont les bienfaits pour les personnes aphasiques? Est-ce qu'on voit les gens s'améliorer? Est-ce qu'on voit leur élocution s'améliorer? Est-ce que je rêve en couleur?
Ben écoutez, c'est sûr que c'est pas magique.
C'est pas magique.
Mais oui, c'est certain qu'il y a une évolution puis qu'il y a une amélioration. On devine que les personnes aphasiques qui ont de la difficulté à parler et qui s'isolent suite à ça, du moins qui perdent le contact avec les amis, avec la famille, qui ne parlent plus ou qui parlent peu, ça peut pas du tout améliorer leur situation. On pense bien qu'il faut absolument que ces gens-là parlent davantage, trouvent des moyens de communiquer autrement aussi au niveau du geste, trouver le réflexe de faire un geste quand le mot ne vient pas. Donc, c'est évident que le théâtre est magnifique pour ça, hein, pour le fait de répéter des textes, d'avoir à travailler des textes, à parler régulièrement, à faire des exercices de diction, ça ne fait qu'améliorer. Ça va travailler la mémoire, ça va travailler la confiance en soi.
Absolument.
Et c'est certain qu'on voit des changements. C'est du long terme. Magique. Hein,
mais oui. C'est clair. C'est pas le truc, là.
Ben non,
bonjour,
ça.
Docteur, auriez-vous un truc? Non,
oui,
ça peut pas fonctionner comme
ça.
C'est cela.
Non, pas du tout.
et on peut vous aider comment, Isabelle?
Ben, c'est sûr que...
En venant au théâtre.
En venant au théâtre. En venant nous encourager. En donnant au théâtre aphasique, hein, un petit organisme comme ça, évidemment, on n'a pas trop de sous.
Je comprends.
Donc, on peut toujours faire des dons au théâtre aphasique. Puis, savez-vous quoi? On a, depuis hier seulement, un nouveau site web magnifique qui vient tout juste d'être remis à jour, rafraîchi.
Bravo.
Oui. Alors là... En allant sur le site, on peut voir comme ça là, comment est-ce qu'on peut nous aider ou faire venir une production, par exemple.
D'accord. Le nom du site, théâtre aphasique, j'imagine.
Point org. Oui.
Ah, point org.
Oui,
tout simple. Et puis, évidemment, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas tout ça. Alors, je rappelle, Isabelle, que vous êtes directrice générale et artistique du théâtre aphasique, ce théâtre fantastique qui fait travailler tous ces gens qui en ont besoin et qui surtout, j'imagine, ont un plaisir fou à le faire.
Tout à fait.
Et qu'on pourra assister... quel est le nom de la pièce, rappelez-moi, que vous proposez mardi
en fait,
le 27?
On l'appelle Le Dernier Mot parce qu'elle inclut toutes les scènes, mais nous allons présenter entre autres deux scènes, la scène de François Archambault.
D'accord.
Qui s'appelle « Dernier mot d'un père mourant à ses trois filles chéries
mm-hmm. »
et la scène de Chantal Cadieux qui s'appelle « La dernière danse ».
D'accord. Tout Donc. Ça le mardi 27 septembre à 20h
voilà.
au Festival de théâtre amateur Arneuf. Autrement dit, ça c'est le lieu sur Calixa-la-Vallée au cœur du parc La Fontaine à Montréal.
Tout à fait.
Et on peut réserver, je vais laisser un numéro qui sera également affiché sur notre site internet dans le 514-523-3316. 514-523-3316. Isabelle Côté, merci beaucoup. Bonne journée.
Ça a été un plaisir, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Les nouvelles nationales et internationales. La ministre Qualtraud assiste à la conférence de 2016 de l'Association canadienne des opérateurs de traversiers pour discuter de l'importance de l'accessibilité, là encore, hein, dans le secteur des transports. Elle a d'ailleurs, l'honorable Carla Qualtraud, souligné cette importance-là en rouge, en jaune, en tout ce que vous voulez. Elle a mis l'accent sur les avantages qu'apporte les employés handicapés aussi aux entreprises canadiennes et sur l'importance de prendre des mesures pour s'assurer que les installations soient accessibles pour tous les Canadiens. Elle a aussi parlé du processus de consultation qu'elle dirige actuellement afin d'orienter l'élaboration de la loi prévue sur l'accessibilité. Cette consultation et cette loi dont elle nous a d'ailleurs parlé sur Canal M il y a quelques jours. Alors ce projet de loi, rappelons-le, qui transformera la façon dont le gouvernement du Canada traite les questions d'accessibilité. La ministre a précisé qu'une partie de la consultation portera sur l'accessibilité dans les transports et comprendra notamment une table ronde à laquelle participeront des représentants du secteur des transports. Si vous vous demandez si cette consultation est à la veille de passer chez vous, voici quelques dates. Par exemple, à Yellowknife, c'est pour le 26 septembre 2016. Regina, le 28 septembre. Winnipeg, le 3 octobre. À Calgary, le 13 octobre. À Moncton, le 20. Et en novembre, eh bien, la consultation va passer à St. John, le 3. À Victoria, en Colombie-Britannique, le 7. À Québec, le 10 novembre. À Montréal, le 16. À Vancouver, le 26. Et à Ottawa le 30 novembre, et ça se poursuit encore en décembre à Charlottetown, Halifax et Toronto. Et puis, à Edmonton, il y a une tour qui va voir le jour. En fait, c'est un projet. Le conseil municipal d'Edmonton a approuvé avec enthousiasme un projet de tour commercial et résidentiel adapté aux besoins des personnes non-voyante. La tour de 35 étages doit être construite avenue Jasper à l'intersection de la 120e rue. Elle abritera des appartements, des commerces et des bureaux de l'Institut national canadien pour les aveugles. Et contrairement au projet de tour Emerald, adopté de justesse à la fin juin, ce projet de tour a été adopté à l'unanimité. C'est un édifice assez haut, même si des gens se présentent et apportent ce genre de beauté architecturale, alors c'est ce que je recherche, a fait savoir le maire d'Edmonton, Don Iveson. Savez-vous que l'architecte est non-voyant? L'organisation sans but lucratif a retenu les services de l'architecte américain Chris Downey pour adapter l'édifice aux besoins des personnes non-voyantes. Chris Downey, qui a perdu la vue il y a 8 ans après une opération pour lui retirer une tumeur au cerveau, près de son nerf optique. Il affirme que l'accent sera beaucoup mis sur l'entrée de l'édifice pour s'assurer, entre autres, que les obstacles comme les arbres ont été enlevés. Des planchers surélevés à certains endroits aideront également les personnes non-voyantes à s'orienter. Les odeurs seront même utilisées pour aider à guider les résidents dans l'édifice. Je vous rappelle que cette tour pour non-voyants va s'ériger à Edmonton. Très rapidement à l'international, Picto Travel rend la France accessible aux personnes à mobilité réduite. On va en mourir de jalousie. Picto Travel propose le premier moteur de recherche des lieux accessibles en France pour les personnes à mobilité réduite. Une innovation pour des millions de personnes handicapées. Près de 2 millions de personnes en France se déplacent en fauteuil roulant. Eh bien, c'est exactement pour eux que qu'on a bâti ce site, cette application qui rend la France accessible. Plus de 46 000 lieux, commerces, restaurants, hôtels et services et transports accessibles sont déjà référencés. Ils espèrent atteindre les 100 000 d'ici la fin de l'année. Alors, ça s'appelle Picto Travel. Si vous pensez faire un tour en France, vous qui vivez peut-être en fauteuil roulant, ben, ça pourrait vous aider de savoir à quel hôtel vous arrêtez ou à quel restaurant aller manger. Alors, en rafale maintenant, l'Association des aidants naturels du bassin de Masquinongée, Main Tendre, dans le cadre des jeudis proches aidants Parkinson, on reçoit le 22 septembre l'intervenante psychosociale Renée Quevillon, de 13h30 à 15h30 au 2501 rue La Flèche à Saint-Paulin. On nous dit ici, venez donc trouver un peu de réconfort, d'écoute, de réponse à toutes vos questions et à vos informations. Le couple Guilbeault-Charbonneau triomphe aux 21 km. François Guilbeault et sa conjointe Mélanie Charbonneau sont tous deux montés sur la plus haute marche du podium du 21 km à l'occasion du défi Adapte ta course qui se déroulait dimanche à Ayerscliff. Guilbeault, qui était également le champion défendant de 2015, a négocié le parcours du demi-marathon en 1h23 pour devancer facilement Charles Roy en 1h31 et Pierre-Alexandre Beaulieu en 1h34. Je ne pense pas qu'il s'agisse du même Charles Roy que nous avons bien connu ici sur les ondes de Canal M, mais allez savoir. Particulièrement, évidemment, de cette particularité de cette course, c'est que parmi les quelques 625 coureurs et coureuses, eh bien, on en retrouve pas mal en fauteuil roulant et en appareil adapté qui ont pris part à cette compétition annuelle. Cela donne lieu à des photos tout à fait sympathiques. Également, Culture et Rafale, je vous avais parlé, mais peut-être un petit peu trop brièvement, de cette bande dessinée écrite par Julie Dachet ou Dachaise et illustrée par Mademoiselle Caroline. La BD qui s'intitule La différence invisible, qui fait passer de façon divertissante beaucoup de connaissances sur l'autisme. Par exemple, talons, 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 bruit, 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 musique et encore la musique. En rouge sang, les mots dansant à travers des vignettes crient au lecteur le calvaire de Marguerite. Pour une autiste, le bruit est une invasion permanente, harassante. Mais autiste, Marguerite ignore encore l'être au début de cette formidable bande dessinée autobiographique qui, je vous le rappelle, a été écrite par Julie Dachaise dans La vraie vie et illustrée par Mademoiselle Caroline. C'est vraiment à ne pas manquer si vous avez l'occasion de tomber là-dessus. La différence invisible pour mieux comprendre ce que vivent les autistes. Je finirai sur une photo. La photo a été prise vendredi, le jour où l'équipe canadienne d'Adam Lancia venait de battre la Chine. Un 63-52 en basketball, en fauteuil roulant. Et sur la photo, on voit Adam, Lucien, Lancia, avec ses prothèses, assis sur le fauteuil de sa compagne, et il l'enlace. Il est né sans pieds, sans chevilles. Il la prend dans ses bras, il l'embrasse. Et c'est le baiser qu'on retient à la fin de ces Jeux paralympiques 2016 à Rio. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde. Merci à ceux qui m'aident.